Chapitre 7. Vous vous rappelez l'homme qui croise ses bras dans le jardin des Tuileries en tenant une épée nue, tandis qu'un bout de chaîne brisé pend à son bras? C'est Spartacus. Voici les quelques lignes de l'histoire de ce héros. C'était déjà un luxe de grand seigneur, à l'époque où nous sommes arrivés, que d'avoir des gladiateurs à soi. Un certain Lentulus Batatius en avait une école à Capoue. 200 d'entre eux résolurent de s'enfuir. Par malheur, le complot fut découvert. 70, prévenus à temps, firent irruption dans la boutique d'un rôtisseur, s'armèrent de couteaux, de couperets et de broches, et sortirent de la ville. Sur la route, ils rencontrèrent un chariot plein d'armes de cirque. C'était justement celle dont ils étaient habitués à se servir. Ils s'en emparèrent, se rendirent maîtres d'une forteresse et élurent 3 chefs, un général et 2 lieutenants. Le général était Spartacus. Voyons maintenant s'il était digne de ce dangereux honneur. Trace de nation, mais de race numide, fort comme Hercule, courageux comme Thésée, il joignait à ses qualités suprêmes la prudence et la douceur d'un grec. Conduit à Rome pour y être vendu, dans une halte et pendant qu'il dormait, un serpent, sans le réveiller ni le mordre, s'entortilla autour de son visage. Sa femme était versée dans l'art de la divination. Elle vit dans cet accident un présage de fortune. Selon elle, ce signe promettait à Spartacus un pouvoir aussi grand que redoutable, mais qui devait finir malheureusement. Elle l'excita à la fuite et s'enfuit avec lui, résolue à partager sa fortune, bonne ou mauvaise. Quand on sut la révolte des gladiateurs, on envoya quelques troupes contre eux. Ils combattirent, vainquirent et désarmèrent les soldats, s'emparant de leurs armes, c'est-à-dire d'armes militaires, honorables et non flétrissantes comme leurs armes de gladiateurs, qu'ils jetèrent loin d'eux. Cela devenait sérieux. On envoya de nouvelles troupes de Rome. Elles étaient commandées par Publius Claudius, qui appartenait à la branche pulchère de la famille Claudia. Pulchère, on le sait, veut dire beau. Claudius ne démentait point sa race. Nous parlerons plus tard de sa beauté comme amant. Nous ne nous occupons ici de lui que comme général. Comme général, il ne fut point heureux. Il avait 3000 hommes de troupe. Il enveloppa les gladiateurs dans leur citadelle, gardant le seul passage par lequel ils puissent sortir. Partout ailleurs, ce n'était que rochers à pic, couverts de ceps de vigne. Les gladiateurs coupèrent les sarments. Le bois noueux et filandreux de la vigne, on le sait, a la solidité de la corde. Ils en firent des échelles par lesquelles ils descendirent tous, à l'exception d'un seul qui resta pour leur jeter leurs armes. De sorte qu'au moment où les Romains croyaient leurs ennemis bloqués plus que jamais, ceux-ci les attaquèrent tout à coup avec des cris furieux. Les Romains prirent la fuite. Ils étaient tous au premier sentiment et faciles à troubler par une surprise, italiens à tout prendre, et par conséquent, impressionnables et nerveux. Le camp tout entier fut abandonné au pouvoir des gladiateurs. Le bruit de la victoire se répandit. Nous disons, nous autres modernes, que rien ne réussit comme le succès. Tous les pâtres et les bouviers des environs accoururent et se joignirent aux révoltés. C'était une bonne recrue de drôles robustes et agiles. On les arma et on en fit des coureurs et des troupes légères. Un second général fut envoyé contre eux, Publius Varinus, qui ne réussit pas mieux que le premier. Spartacus commença par battre son lieutenant, puis son collègue Cocinius, puis enfin le battit lui-même et lui prit ses licteurs et son cheval de bataille. Dès lors, ce fut une suite de victoires. Le plan de Spartacus était très sage. Il s'agissait de gagner les Alpes, de descendre dans la Gaule et de se retirer chacun chez soi. Gélius et Lentulus furent envoyés contre lui. Gélius battit un corps de Germains qui faisait bande à part. Mais Spartacus, lui, à son tour, battit les lieutenants de Lentulus et s'empara de tout leur bagage. Puis il continua sa marche vers les Alpes. Cassius vint à sa rencontre avec 10 000 hommes. Le combat fut long et acharné, mais Spartacus lui passa sur le corps et se remit en route, toujours dans la même direction. Le Sénat, indigné, déposa les 2 consuls et envoya Crassus contre l'invincible. Crassus alla camper dans le Picénum pour y attendre Spartacus, tout en faisant prendre à Mummius et aux 2 légions qu'il commandait un grand circuit afin de suivre les gladiateurs, mais avec défense de les combattre. La première chose que fit Mummius fut naturellement de présenter la bataille à Spartacus. Comme pour notre Abdelkader, chacun se croyait réservé à l'honneur de le prendre. Spartacus écrasa Mummius et ses deux légions. 3 ou 4 000 hommes furent tués. Le reste se sauva en jetant ses armes pour courir plus vite. Crassus décima les fuyards. Il prit les 500 qui avaient les premiers crié « le sauve qui peut », les partagea en 50 dizaines, les fit tirer au sort et punit de mort celui de chaque dizaine sur lequel le sort tomba. Spartacus avait traversé la Lucanie et se retirait vers la mer. Au détroit de Mycène, il rencontra les fameux pirates que l'on rencontrait partout et dont nous avons parlé à propos de leur aventure avec César. Entre pirates et gladiateurs, Spartacus crut que l'on pouvait s'entendre. En effet, il fit un accord avec eux pour qu'ils transportassent 2 000 hommes en Sicile. Il s'agissait d'y rallumer la guerre des esclaves, éteinte depuis peu de temps. Mais les pirates prirent l'argent de Spartacus et le laissèrent sur le bord de la mer. Ce que voyant Spartacus, il alla camper dans la presqu'île de Régium. Crassus l'y suivit. Il traça une ligne dans une largeur de 300 stades qui était celle de la presqu'île et la convertit en tranchée. Puis, sur le bord de cette tranchée, il éleva un mur haut et épais. Spartacus commença par rire de ses travaux et finit par s'en effrayer. Il ne les laissa point achever. Une nuit qu'il neigeait, il combla le fossé avec des fascines, des branches d'arbres et de la terre et fit passer le tiers de son armée. Crassus crut d'abord que Spartacus marchait sur Rome. Mais bientôt, il fut rassuré en voyant ses ennemis se séparer. La division était entre Spartacus et ses lieutenants. Crassus attaqua ceux-ci et ils commençaient à les chasser devant lui quand Spartacus apparut et lui fit lâcher prise. Effrayé de la défaite de Mummius, Crassus avait écrit qu'on rappela Lucullus Thrace et Pompée d'Espagne afin qu'ils vinssent à son aide. Arrivé au point où il en était, il comprit son imprudence. Celui des deux qui arriverait passerait pour le véritable vainqueur et lui enlèverait la récompense de la victoire. Il résolut donc de vaincre seul. Carminus et Castus, deux lieutenants de Spartacus, s'étaient séparés de leur chef. Crassus résolut de commencer par les battre. Il envoya 6 000 hommes avec ordre de s'emparer d'un poste avantageux. Ceux-ci, pour ne pas être découverts, avaient, comme firent plus tard les soldats de Duncan, couvert leurs casques de branches d'arbres. Malheureusement, deux femmes qui faisaient pour les gladiateurs des sacrifices à l'entrée du camp virent la forêt mouvante et donnèrent l'alarme. Carminus et Castus tombèrent sur les Romains qui eussent été perdus si Crassus n'eût engagé le reste de son armée pour les soutenir. 12 300 gladiateurs restèrent sur le champ de bataille. On les compta, on examina leurs blessures. 10 seulement avaient été frappés par derrière. Après un pareil carnage fait à son armée, il n'y avait plus moyen pour Spartacus de tenir la campagne. Il essaya de battre en retraite vers les montagnes de Pétélée. Crassus lança contre lui et sur ses traces Scrofas, son questeur, et Quintus, son lieutenant. Spartacus, comme un sanglier qui revient sur les chiens, se retourna contre eux et les mit en fuite. Cette victoire le perdit. Ses soldats déclarèrent qu'ils voulaient combattre. Ils entourèrent les chefs et les ramenèrent contre les Romains. C'était ce que demandait Crassus, en finir à quelque prix que ce fût. Il venait d'apprendre que Pompée approchait. Il s'approcha donc de son côté le plus qu'il put de l'ennemi. Un jour qu'il faisait tirer une tranchée, les gladiateurs vinrent escarmoucher avec ses hommes. L'amour-propre s'en mêla. Des deux côtés on sortit du camp. Le combat s'engagea. Chaque instant amenait de nouveaux combattants. Spartacus se vit obligé d'engager la bataille. C'était justement ce qu'il voulait éviter. Forcé d'agir contre son gré, il se fit amener son cheval, tira son épée et la lui plongea dans la gorge. L'animal tomba. « Que fais-tu ? » lui demanda-t-on. « Si je suis vainqueur, dit-il, je ne manquerai pas de bons chevaux. Si je suis vaincu, je n'en ai pas besoin. » Et aussitôt, il se jeta au milieu des Romains, cherchant Crassus, mais sans pouvoir le trouver. 2 centurions s'attachaient à lui. Il les tua tous deux. Enfin, tous les siens ayant pris la fuite, il resta, lui, comme il avait promis, et se fit tuer sans reculer d'un pas. Pompée arrivait en ce moment. Les débris de l'armée de Spartacus allèrent se heurter à lui. Il les extermina. Dès lors, comme l'avait prévu Crassus, ce fut Pompée qui eut l'honneur de la défaite des gladiateurs, quoiqu'il fût arrivé après la défaite. Quant à Crassus, il eut beau donner au peuple la dîme de ses biens, il eut beau dresser 10 000 tables sur le forum, il eut beau faire à chaque citoyen une distribution de blé pour 3 mois, il fallut que Pompée le protégeât pour qu'il obtînt le consulat concurremment avec lui, et encore ne fut-il nommé que second consul. Puis ce fut Pompée qui eut le triomphe et Crassus l'ovation. Comme nous l'avons dit, la fortune favorisait Pompée. Métellus lui avait préparé sa victoire sur Sertorius. Crassus avait mieux fait, il lui avait vaincu Spartacus. Et dans les cris de triomphe du peuple, il n'était question ni de Métellus ni de Crassus, mais du seul Pompée. Puis était venue la guerre des pirates. Nous avons dit quelle puissance ils avaient conquise. Il fallait les détruire de fond en comble. Ce fut Pompée que l'on en chargea. Sa triple victoire sur Lépidus, sur Sertorius et sur Spartacus en avait fait l'épée de la République. On ne jugeait pas même Crassus digne d'être son lieutenant. Pauvre Crassus, il était trop riche pour qu'on lui rendît justice. C'étaient les chevaliers qui avaient le plus souffert de l'occupation de la mer par des pirates. Tout le commerce de l'Italie était entre leurs mains. Or, le commerce étant interrompu, les chevaliers étaient ruinés. Ils n'avaient d'espoir qu'en Pompée. Ils le firent, malgré le Sénat, maître de la mer, de la Cilicie aux colonnes d'Hercule, avec tout pouvoir sur les côtes, à la distance de 20 lieues. Sur ces 20 lieues, il avait droit de vie et de mort. En outre, il pouvait prendre, pour construire 500 vaisseaux, chez les questeurs et les publicains, tout l'argent qu'il voudrait. Il pouvait, à sa volonté, à son désir, à son caprice, lever soldats, matelots et rameurs. Seulement, tous ses moyens lui étaient donnés, à condition que, par-dessus le marché, il détruirait Mithridate. Cela se passait 67 ans avant Jésus-Christ. César avait 33 ans. En 3 mois, grâce aux terribles ressources qui lui étaient votées, Pompée avait réduit les pirates. Au reste, l'œuvre de destruction s'était opérée bien plus par la persuasion que par la force. Restait Mithridate. Mithridate lui rendit le service de se tuer sur l'ordre que lui en donna son fils Pharnace, au moment où, après avoir soumis la Judée, lui, Pompée, venait d'entreprendre avec les Arabes une guerre des plus imprudentes. Voilà ce qu'était Pompée. Passons à Crassus.